Vous écoutez RMC.
Il met tout de suite la politique du côté de l'Assemblée nationale. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour Apolline Desmalières.
Vous êtes député socialiste de l'Eure. Voter la censure serait absurde. Voilà ce que dit le patron des socialistes, Olivier Faure. D'autant plus que désormais, le Premier ministre Sébastien Lecornu menace. S'il y a censure, il y aura dissolution. Ça vous fout un peu la trouille ?
Non, c'est une menace d'ailleurs assez ridicule, vu et déjà vu. J'ai été reçu sur votre plateau à de nombreuses reprises, la suite de menaces des uns et des autres. Chacun sait de toute façon que si on n'arrive pas au bout de la discussion budgétaire, il faudra une dissolution, parce qu'il faudra bien débloquer les situations. On a montré qu'on était capable d'avoir un compromis sur le budget de la sécurité sociale. On peut l'avoir sur le budget de l'État, en tout cas c'est notre conviction. La réponse à laquelle Olivier Faure a répondu, c'est pas sur le budget, c'est sur le Mercosur. Il a dit que c'était absurde, effectivement, de censurer le gouvernement sur le Mercosur, parce que le gouvernement désormais est contre ce traité, l'a dit au Conseil, a voté contre, et qu'aujourd'hui il faut une unité nationale pour se mobiliser d'ici le vote au Parlement européen qui aura lieu le 20 janvier. Et il faut 360 voix contre, et nous pensons que nous pouvons arriver à ces 360 voix. Pendant quelques jours, on va tous se mobiliser les uns et les autres, nous les socialistes dans notre groupe au Parlement européen, pour atteindre ces 360 voix et défendre les agriculteurs français.
Donc pour vous, la meilleure manière de lutter contre le Mercosur, c'est pas de censurer le gouvernement?
En tout cas, pas maintenant, hein, on s'en occupera plus tard. Là, il faut réussir le vote du 20 janvier. D'abord, les agriculteurs français.
Philippe Brun, vous dites il faut quand même trouver un compromis sur le budget. Mais un compromis sur quel texte? On le sent bien, il y a notamment un point qui coince. Ce sont ces fameux 6 à 8 milliards de surtaxes sur les impôts des sociétés. Vous le voulez, la droite n'en veut pas. Et puis plus globalement, est-ce que vous obtiendrez un compromis qui permette au déficit de passer sous la barre des 5%? Aujourd'hui, on est à 5,5%.
Oui, c'est le résultat aussi du Sénat, donc qui nous donne plein de leçons. Vous savez, la droite, Monsieur Retailleau, nous disent qu'ils sont des bons gestionnaires. Ils nous ont fait une copie avec un déficit à, en vérité, 5,4% du PIB. On voit les artistes. Nous, on propose un retour à 5%. Qu'est-ce qui est en discussion?
Enfin, vous proposez un retour à moins de 5% en augmentant les recettes,
non,
pas
d'accord.
Franchement
simplement en gardant,
en baissant les dépenses.
Écoutez, on parle de recettes qui datent de l'année dernière. Qui a créé la surtaxe sur les grandes entreprises? Grandes entreprises.
Je vous rappelle qu'elle était censée être temporaire.
Oui, qui l'a créée? La première personne qui l'a fait adopter, c'est Nicolas Sarkozy en 2011. Puis, ça a été ressuscité par Michel Barnier. C'est pas donc une idée de la gauche, c'est une idée de la droite. On propose simplement de la reconduire cette année, ce qui permet de tenir nos objectifs de déficit. Et puis surtout, on demande quatre choses importantes en deuxième partie du projet de loi de finances. On demande de revaloriser la prime d'activité pour tous les gens qui travaillent dur. Il y en a qui nous écoutent ce matin, qui vont bosser, qui sont entre 1 et 1,3 SMIC. On demande à ce qu'on favorise davantage le travail et les gens qui se lèvent tôt pour aller travailler. On demande aussi d'augmenter le nombre de postes dans l'éducation nationale, des moyens supplémentaires pour l'écologie et enfin une série de mesures sur le logement. On a un problème énorme de logement dans notre pays. Si on arrive à voir tout ça et le retour à 5%, alors oui, un compromis est possible et je l'espère.
Vous finirez par vous résoudre à un 49-3?
C'est pas à nous de le décider. Nous ne sommes pas le gouvernement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, en tout cas, pour donner un budget à la France.
Enfin, disons, vous n'êtes plus obsédé par l'idée d'interdire le 49-3.
Ça n'a jamais été notre position. On a toujours dit, depuis le début, que ce qui comptait pour nous, c'est qu'il y ait un texte de compromis, quelle que soit finalement la manière dont il est adopté.
Vous avez quand même un tout petit peu la mémoire sélective. Lorsque Sébastien Lecornu s'engage à renoncer au 49-3, il le fait de manière extrêmement solennelle et il le fait pour vous.
Écoutez, ce que ça a permis déjà, un, c'est qu'on a adopté le budget de la sécurité sociale qui, je le rappelle, est plus important que le budget de l'État. 800 milliards.
Non mais vous ne répondez pas à la question.
Non mais donc on a déjà eu une discussion qui a permis ça. Ensuite, il y a eu une vraie discussion budgétaire à l'Assemblée nationale qui a permis aussi de le faire 149.3. Maintenant, c'est au Premier ministre de prendre ses décisions.
Je vous repose la question, Philippe Brun. Vous n'êtes plus opposé à l'idée de l'usage du 49.3.
Si vous attendez, Apolline de Malherbe, qu'on fasse des prières païennes pour demander au Premier ministre l'usage du 49.3, ça n'arrivera pas. Donc jamais nous ne demanderons l'usage du 49-3. Nous pensons que cet article devrait être supprimé de la Constitution.
Je vous demande pas de dire que vous demandez l'usage du 49-3. Je comprends bien que vous ne demandiez pas l'usage du 49-3. Mais à l'inverse, vous ne demandez plus qu'on se passe du 49-3.
Écoutez, il faut s'en passer pour permettre une discussion budgétaire. On l'a permis sur le budget de la sécurité sociale. Je crois qu'on peut se permettre aussi de continuer la discussion sur le budget de l'État. Le problème, c'est que comme cet article existe, les macronistes aujourd'hui ne font plus aucun effort. On a une discussion en commission des finances en ce moment qui est lunaire, où les uns et les autres se refusent à faire des pas l'un vers l'autre. Donc tant que cet article existe, finalement, ça exerce aussi une pression pour ne pas faire de compromis et attendre que le gouvernement le fasse. Et je le constate
malheureusement. Mais en fait, je suis frappé quand même qu'au fond, vous vous dites, c'était bien de promettre qu'on l'utiliserait pas, mais c'est très bien ensuite de ne pas respecter cette promesse.
Non, c'est pas très bien. Moi, je m'oppose au 49.3. Je pense qu'il faut supprimer cet article de la Constitution et ça changerait complètement notre République. On n'aurait pas ces gouvernements minoritaires. On serait obligé de constituer des coalitions. On serait obligé d'avoir de vrais débats budgétaires parce que comme on n'aurait pas cet outil miraculeux, on serait vraiment obligé de faire des compromis. Donc moi, je suis contre l'usage de cet article. Maintenant, si comme cet article existe, je vois bien les difficultés. Commission des finances, on a
c'est hyper paradoxal. C'est hyper paradoxal. C'est-à-dire que vous dites, je veux pas que cette nous sommes pour la suppression de cet article. Et en même temps, en ce moment, vous vous dites c'est bien confortable
non,
de l'avoir.
Mais, on n'a jamais dit ça. Nous ne disons pas que c'est bien confortable. Nous n'appelons pas au 49.3. Je vous dis simplement, c'est que si le Premier ministre engageait sa responsabilité sur le budget et que si le texte avait été négocié et que c'était un texte de compromis, on ne jouerait pas la politique du pire et on ne mettrait pas le chaos en empêchant le pays d'avoir un budget.
Vous ne censureriez pas, s'il y avait usage de 49.3, vous ne censureriez pas derrière.
Avec un texte de compromis, si c'est un texte qui, comme on a aujourd'hui, celui qui sort du Sénat, qui baisse la prime d'activité pour les gens qui nous écoutent ce matin, qui sont dans leur bagnole, qui vont bosser, la prime d'activité, elle va baisser dans le texte là qui est aujourd'hui discuté pour tous les gens qui sont entre 1,3 SMIC. Ça, on ne peut pas l'accepter. Si c'est un texte qui supprime des postes de l'éducation nationale, en particulier dans les villages ruraux. Moi, je suis désolé. Moi, je suis député d'une circonscription rurale. J'ai 83 communes. Les gamins qui ont 3 ans, ils vont pas faire une heure de quart pour aller à l'école. Ça, c'est pas possible. Et quand on supprime des postes de l'éducation nationale, c'est d'abord le rural qui prend. Bref, il y a tout ça qu'il faut qu'on règle avant. Si on arrive à trouver un compromis, alors je pense qu'on peut donner à la France un budget avant le 30 janvier, ce sera plutôt une bonne nouvelle.
Merci Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, d'avoir répondu à mes questions. Je reprécise également qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Vous estimez qu'il ne faut pas censurer sur la question du Mercosur ce gouvernement.